Bienvenue aux enregistrements de l'Église chrétienne Source de vie. Nous croyons que ce message vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Bonne écoute.
Soyez bénis ce matin. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui?
Oui!
J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui?
Oui!
Amen. Je me suis mis un petit peu plus bas parce que je voulais être proche de vous et moins proche du plafond aussi. Donc, je veux remercier tout d'abord et avant tout et honorer vos pasteurs, Pasteur Suzy, Pasteur Brian, que je connais depuis quelques temps. Et vraiment, j'ai été honoré de leur invitation parmi vous. Et je remercie ce que le Seigneur fait au milieu de vous. Amen. La parole vient avec prospérité, elle vient grandissante au milieu de vous et elle prospère en vous. Amen. Et c'est ça que l'effet de la parole doit faire en chacun d'entre nous. Amen. Mais on va prier ensemble avant de débuter. On va chacun mettre la main sur notre cœur, puis vous allez répéter après moi. Merci, Père, que ce matin, toutes mes interrogations, tous mes questionnements seront répondus au travers de la parole que tu vas amener ce matin. Merci que les yeux de mon cœur sont ouverts à voir Christ tel qu'il est et à me voir tel que je suis en lui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Je pense que quand hier le Canadien était 4-0, je pense qu'il y en a qui criaient plus que ça. Est-ce que je peux entendre des cris de joie ce matin? Merci Père. Amen. C'est parce que je pense que les francophones, à cause qu'on vit trop dans le froid, hein, des fois, quand on écoute la parole, on a les yeux sérieux, puis le front fermé, puis on réagit pas trop. Mais dans le ciel, je pense qu'il y a eu, dans toute l'éternité dans le ciel, il y a eu 30 minutes de silence. Mais les anges sont en train de continuellement louer Dieu. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on soit réceptif et qu'on pousse encore des cris de joie ce matin, qu'on soit heureux dans la présence de Dieu. Yes! Amen! 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 Moi, je suis quelqu'un de très calme habituellement, mais quand je rends ministère du Seigneur aux gens, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène la joie. Amen! Amen! Ce matin, le titre de mon message, s'il y en a qui veulent prendre des notes, peu importe, le titre que je peux vous donner, c'est « Christ dévoilé, identité révélée ». Dis avec moi « Christ dévoilé, identité révélée ». Amen. Lorsque Jésus-Christ est dévoilé, mon identité est révélée. Amen. Il y a trois choses, il y a trois mensonges que la religion nous transmet. Premièrement, il y a la déficience. Deuxièmement, le délai. Et troisièmement, la distance. Donc, déficience, délai, distance. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, quand on ne saisit pas ou on ne comprend pas l'œuvre de Christ, de son incarnation à son ascension dans les cieux, il y a trois choses que la religion nous propose. La déficience, c'est que la religion nous fait croire qu'on est déficient, qu'il nous manque des choses, qu'on n'a pas toutes choses en lui. C'est ça que la religion vient faire. Donc, la religion, elle se fait beaucoup d'argent même avec ces mensonges-là. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que quand on ne comprend pas qu'on a tout reçu en Christ, la religion, c'est là qu'elle vient pour nous mentir qu'on est manquant, qu'on est déficient de quelque chose. Deuxième mensonge, c'est le délai. Ça veut dire que non seulement on manque des choses, mais on ne les a pas reçues tout de suite. On doit encore attendre, on doit encore faire beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres pour recevoir les choses de Dieu. Ça, c'est le deuxième mensonge de la religion. Et la troisième mensonge, c'est la distance. Ça veut dire que la religion, non seulement nous ment dans le sens qu'on est déficient, qu'on est manquant, qu'on manque des choses alors qu'on est en crise. Non seulement elle veut nous faire croire qu'on a encore beaucoup d'œuvres à faire, qu'on doit encore attendre que les choses de Dieu se fassent, mais qu'on est distant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est très loin dans le multivers, dans une autre dimension, que nous, on est des petits humains, petits comme des fourmis, puis que nos prières doivent faire des années-lumière pour rejoindre Dieu. La distance. Amen. Alors qu'on est en lui. Christ est plus proche de toi que l'air que tu respires. Prends une respiration. Christ est plus près de toi que ce que tu viens de faire. Amen. Est-ce que vous le croyez ou? Amen. Christ est plus près de toi que l'air que tu respires. Il est tout l'essence de ton être entier, esprit, âme et corps. C'est pas juste que Christ habite dans ton cœur, dans un petit coin colocataire avec d'autres dieux, mais Christ est tout en toi, tu es tout en lui. Amen. C'est une union parfaite entre nous et Dieu. Amen. C'est pourquoi le mensonge de déficience, de distance, de délai sont brisés lorsqu'on reçoit la révélation de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas juste un simple message qui dit « Jésus t'a sauvé, il est mort pour toi à la croix, tu vas aller au ciel ». Mais c'est ce glorieux message dans lequel Dieu nous révèle qui nous sommes rendus en lui. Amen. L'Évangile, c'est pour tous les jours. Il y avait ce grand théologien Martin Luther qui dit « On doit écouter l'Évangile tous les jours parce qu'on l'oublie tous les jours ». N'est-ce pas vrai? Quand on vit des situations, des problèmes, des difficultés, des challenges, on oublie l'Évangile et on pense qu'on est laissé à nous-mêmes. On recommence à penser que Dieu ne nous aime plus. On recommence à penser que Dieu est loin. On recommence à penser que « est-ce que Dieu m'entend? » N'est-ce pas qu'on oublie l'Évangile tous les jours? Donc, on doit l'entendre tous les jours. Amen. Amen. Donc, cet évangile-là nous fait passer de la conscience du péché à la conscience de Christ. Amen. Notre identité surpasse notre performance. Amen. Oui, nous servons Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, mais avant tout, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui pensent que Dieu a créé des humains simplement pour le servir? Est-ce qu'il y en a qui pensent que Dieu, il s'est dit, « Ouais, ben là, je me sens seul, là, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est quand même plate. Fait, je vais créer un être humain, puis il va me servir tous les jours de sa vie. Et à la fin de sa vie, il va choisir s'il va dans les flammes ou il va aller dans les nuages avec moi. » Est-ce que vous pensez que c'est ça que Dieu a pensé dans son plan éternel en vous créant? J'espère que non. J'espère que non. Parce que Dieu n'a pas seulement de l'amour, mais il est amour. Et l'amour, ça donne et ça reçoit. Et le Père et le Fils éternel et le Saint-Esprit qui est ce lien d'amour entre le Père et le Fils, constamment, dans cet amour, on dit, on va créer l'humain. On va créer l'homme à notre image, notre ressemblance. On va créer un être qui est compatible avec nous, dans lequel on pourra se manifester physiquement, visuellement, visiblement. Amen. Amen. Et c'est dans cet amour que nous sommes inclus tous ensemble. Amen. Avant la fondation du monde, avant qu'il y ait la loi, avant qu'il y ait le péché, avant qu'Adam décide de manger la pomme fictive, la fameuse pomme, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est ça que les images religieuses nous démontrent, mais le fruit, excusez-moi, c'est simplement ce faux concept que Adam a avalé dans lequel il s'est dit « Je peux être comme Dieu en dehors de la vie de Dieu. » C'est-à-dire qu'il y avait un arbre de vie qui représente Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal vient représenter ce faux concept dans lequel on peut vivre pour Dieu, mais sans lui. Dans lequel on doit faire X, Y, Z choses pour devenir comme lui, alors que Adam a oublié son origine, qu'il est né de Dieu. Amen. Dans le livre de Luc, il y a la généalogie de Jésus-Christ et Luc remonte et dit Adam, fils de Dieu. Donc Adam, le serpent est venu et il dit, si tu manges le fruit, Dieu ne veut pas que tu manges le fruit parce qu'il a peur que tu deviennes comme lui. Adam a oublié qu'il est déjà comme lui. Donc techniquement, il n'a rien à faire pour devenir comme Dieu parce qu'il est déjà comme Dieu, c'est-à-dire la même nature, il était fait co-créateur avec Dieu. Dieu lui a donné l'autorité de même nommer les animaux. Dieu s'est détaché de cette tâche. Il a dit, « Oh, je vais la laisser à l'homme qui est fait à mon image. » Donc, moi, j'ai créé le monde par ma parole. L'homme aussi, j'ai donné cette autorité de donner des noms aux animaux. Amen. Donc, Dieu, il s'est dit, « J'ai quelqu'un de la même nature que moi. » Mais Adam a décidé de laisser de côté son identité. C'est pourquoi, quand on dit le péché originel, c'est le péché contre ses origines. C'est mon origine, je viens de Dieu, donc j'ai péché contre mon origine. C'est ça le péché originel. Et c'est ça qui a créé la chute de l'humanité tout entière à cause que Adam représentait tous les hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus est venu, lui qui a toujours été fils de Dieu, qui a toujours été Dieu, est venu sous l'apparence de la chair pécheresse pour vivre dans notre humanité et récapituler ou redémarrer, si je peux dire, l'humanité entière pour qu'on soit inclus dans sa divinité. Amen! Il est devenu fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent fils de Dieu. Amen! C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen! Si nous sommes conscients de cette bonne nouvelle et si nous acceptons cette bonne nouvelle, pourquoi est-ce que nous avons tant de problèmes au quotidien en tant que chrétiens? Amen. La réalité, c'est que je vois beaucoup de chrétiens qui sont très tristes. Oh, c'est silencieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très tristes. J'en connais énormément. Que cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu a simplement atteint l'intellect, mais n'est pas descendu au cœur. C'est comme dans la parabole où Jésus dit qu'il y a quatre types de terres et il y a une des terres que la parole, la semence commence à germer, mais elle est étouffée. Et il compare ça, il dit, c'est comme quelqu'un qui reçoit la parole avec joie, mais les problèmes de la vie commencent à l'étouffer. Et c'est souvent ça, on va entendre l'évangile, « Oh, j'ai eu un bon message ce dimanche! » Mais le lundi, le problème arrive, et c'est comme si on n'avait jamais eu de message. Ça veut dire que cet évangile-là n'a pas encore pénétré en nous. Ça veut dire que cet évangile-là n'a pas encore transformé nos mentalités. C'est ça que ça veut dire en réalité. Donc, on ne doit pas être des simples écouteurs et commencer à collecter des messages. J'ai écouté ça, j'ai écouté ci, j'ai écouté tel message, mais on doit faire en sorte que cette parole prenne vie en nous. Amen. Jésus a dit aux pharisiens en Jean 5, 39, est-ce qu'on peut tourner là rapidement? Donc, Jean 5, 39 nous dit, on va commencer au verset 37 plutôt. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Amen. Jésus parle à qui ici? Aux pharisiens. Les pharisiens, vous savez, c'est qui? C'était cette secte religieuse qui connaissait la loi à 1000%. Et non seulement ils connaissaient la loi, ils ont ajouté des choses par-dessus la loi. Tellement ils étaient religieux, tellement ils voulaient montrer leur attachement à Dieu. Et c'était des gens qui connaissaient la Torah, l'Ancien Testament, toutes les Écritures de Moïse, les prophètes, les psaumes. Ils connaissaient ça par cœur. Jésus vient vers eux et leur dit, « Vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie, mais pourtant, c'est de moi qu'elles rendent témoignage, puis vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. » Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que oui, on va méditer la parole. On va la lire, on va la manger, on va la mémoriser. Mais ce n'est pas le simple fait de lire la Bible qui va faire de moi, entre guillemets, un meilleur chrétien. Mais c'est d'être conscient que la vie de Christ est ma vie aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une réalité qui va se faire demain. Ouais, mais là, aujourd'hui, dans ma journée, je me sentais pas vraiment comme Christ aujourd'hui. Ce n'est pas une question de sensation. C'est une vérité. Donc, la vérité ne devient pas vraie quand tu y crois. Elle est vraie que tu y crois ou non. Donc, si je te dis aujourd'hui, tu es fait à l'image de Christ, tu es comme Christ, essaie pas d'aller voir ton comportement quotidien. Je suis en train de te déclarer ce qui est vrai de toi. Amen. Que tu y crois ou non. Amen. La croix ne devient pas vraie quand vous allez y croire. Elle est vraie, ça fait 2000 ans qu'elle est vraie. Amen. Ce n'est pas le jour que tu crois que finalement, ah, c'est vrai, Jésus est vraiment mort à la croix. Ça fait longtemps qu'il est mort à la croix. Il n'a pas attendu que les gens croient pour aller à la croix. Amen. Amen. Parce que si Jésus attendait que les gens croient pour aller à la croix, il ne serait jamais allé à la croix. Amen. Mais il l'a fait en dépit que l'on croit ou non. Parce qu'il avait l'assurance, l'espérance qu'un jour, les gens comprendraient et croiraient ce qu'il a fait. Amen! Amen! Donc, les Écritures sont tirantes témoignages de Jésus-Christ, mais c'est sa vie en nous, c'est par sa vie en nous que nous vivons aujourd'hui. Amen! Je ne sais pas si vous me suivez. Je sens vos fronts nord-américains froncés, analysateurs. Faut enregistrer, mais il faut recevoir. Parce que les paroles que j'amène, ce n'est pas juste des paroles d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui amène la vie en nous. Amen. C'est ça qui amène la vie de Christ à être manifeste en nous. Amen. Il y a l'union avec Christ, mais il y a aussi la participation. Pierre, dans 2 Pierre, il nous dit que nous sommes devenus participants de sa nature divine. Donc, nous ne sommes pas simplement unis à lui, comme dans 1 Corinthiens 6 qui nous dit que nous et notre esprit, nous sommes joints à Christ. Nous sommes un seul esprit avec Christ. Mais là, tu regardes ta semaine, tu regardes que oh, je n'ai pas autant lu la Bible, je n'ai pas prié tant d'heures, je n'ai pas vraiment été gentil envers ma famille. Puis à la fin de la semaine, tu fais un constat, tu dis, je ne sais plus si je suis vraiment chrétien. Et c'est ça le problème. Parce que c'est l'identité qui surpasse ta performance. Le fils n'a jamais à faire les choses que le serviteur doit faire. Amen. Un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste qu'est-ce qu'on lui a demandé. Ben moi, on m'a demandé de sortir des poubelles. Je ne vais pas commencer à laver la vaisselle. Mais le fils, parce que c'est chez lui, parce que c'est chez son père, il va faire tout parce qu'il aime son père, pas parce qu'on lui a demandé. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore avec une mentalité de serviteur. C'est-à-dire, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis oui, c'est bon de servir Dieu, mais il faut être conscient qu'on est des fils qui servons Dieu. Et on ne sert pas Dieu pour avoir des bénéfices, mais on sert Dieu parce qu'on l'aime et il nous aime en premier. Amen. Mais on a beaucoup cette mentalité de serviteur dans le sens que plus qu'on va faire pour Dieu, plus que Dieu va me bénir, puis plus que... Ça, c'est un piège. Dans 1 Timothée 6, Paul nous dit que la piété est une source de gain, oui, mais dans le contentement. Mais il y en a qui prêchent pour avoir une source de gain, pensant que la piété nous amène de l'argent. C'est-à-dire que dans le premier siècle, les gens pensaient que plus que quelqu'un avait de l'argent ou était béni, plus qu'il était proche de Dieu. C'est un gros mensonge. Mais c'est aussi un mensonge de dire que plus que je suis humble et que je n'ai pas trop d'argent, plus que je suis vraiment consacré à Dieu. Paul y amène une balance, il dit c'est le contentement. J'ai tout selon Dieu pour combler tous mes besoins et un superflu pour aider les autres. Amen. Ça dépend c'est quoi tes besoins. Si tu es une multinationale, tu as beaucoup de besoins. Mais si tu as un appartement, tu as moins de besoins. Ça dépend de chacun. Amen. Pour dire que nous sommes des fils qui servons, mais nous ne devons plus avoir cette mentalité de serviteur qui pense que Dieu va les frapper. Allô? Il y en a qui ont encore cette façon de voir Dieu que si je ne fais pas les bonnes choses, Dieu va me frapper. Il y en a qui pensent que les malheurs qui leur arrivent dans la vie, écoutez-moi bien, il y en a qui pensent que les malheurs qui leur arrivent dans la vie, c'est Dieu qui a amené ces malheurs-là. Je vous dis que ce que tu crois de Dieu et ce que tu penses de Dieu va affecter ta vie directement. Amen. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des gens, au nom de la religion, tuent les autres? C'est parce qu'ils voient leur Dieu comme quelqu'un qui veut tuer les gens. Donc, moi, je vois Dieu comme ça. Donc, la manière dont je vois Dieu va influencer mes actions. Amen. Je vais vous amener quelque chose dans le monde de la psychologie et plus... nos fonctions de l'âme. Et souvent dans l'Église, des fois, c'est tabou, la psychologie, parce que là, c'est séculier, ça, la psychologie. Mais Paul, je sais que Paul est un de ceux qui parle beaucoup de psychologie. Il parle de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Il parle de la raison, avoir une raison saine. Il parle de nos pensées, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vert, qui est digne d'approbation soit l'objet de notre... La pensée, c'est quoi? C'est dans la psychologie. Paul nous parle beaucoup du raisonnement, il nous parle du discernement, il nous parle du jugement. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui se révèlent à la psychologie, mais ce n'est pas la psychologie selon le monde, c'est selon Paul. Amen. Et des études scientifiques ont démontré que dans nos neurones, on a une neurone qui s'appelle les neurones moteurs, c'est ces neurones qui nous amènent à faire du mouvement. Mais on a aussi des neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Et ces neurones miroirs nous amènent à visualiser une chose et cette visualisation va nous amener à imiter cette chose-là. Amen. C'est-à-dire que si je vois moi je suis quelqu'un qui joue au hockey, puis là je vois Sidney Crosby jouer au hockey, mais là quand je vais aller à la patinoire, je vais visualiser Sidney, puis dans mes mouvements, je vais faire des mouvements comme Sidney Crosby ou comme Subban, parce que moi j'aime beaucoup Subban. Là je vais commencer à bouger comme lui, mais cette fonction-là, c'est le neurone miroir. Mais le neurone miroir n'a pas nécessairement besoin, pour lui en fait, l'action c'est pareil comme l'imagination. Ça veut dire que si tu imagines une chose, c'est comme si tu l'avais fait physiquement. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? C'est des fonctions qu'on a dans notre cerveau humain, tout le monde. Donc, le neurone miroir. Oui, souvenez-vous de ce mot miroir. Amen. On va aller en 2 Corinthiens 3. Nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Donc maintenant, la manière dont on voit Christ dans notre entendement, dans les yeux de notre cœur, c'est de cette manière-là qu'on va être transformé en son image. Amen. On est déjà comme Christ, mais c'est d'avoir la révélation de qui est ce Christ-là et qui nous sommes en lui qui va influencer notre comportement. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas cette révélation de la justification, cette révélation de l'identité, cette révélation de la rédemption. Amen. Donc, quand tu ne comprends pas ces choses-là, c'est normal que tu ne puisses pas voir la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Amen. Le miroir de la loi va te montrer tes erreurs, tes fautes, va te montrer comment tu n'es pas bon, va te montrer comment Dieu ne t'aime pas. Amen. Mais ce n'est pas, dans ce miroir-là qu'on doit se regarder. C'est dans le miroir de la gloire du Seigneur. Amen. Amen. C'est notre miroir aujourd'hui. Je pense que dans le mois dernier, vous avez vu un peu la différence entre la loi et la grâce. Vous avez vu que la loi est venue pour condamner. Amen. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens se regardent encore dans ce miroir-là? Ils n'ont pas encore compris le but et l'intention de la loi. Amen. Amen. Donc, ce n'est plus notre standard aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui est en nous, qui nous amène à être comme tel quel que Christ est. Mais c'est à la mesure qu'on se voit en Christ qu'on va agir comme lui. Mais ce n'est pas à force d'agir comme lui qu'on va devenir comme lui. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. La religion, c'est de faire pour devenir. Mais la foi en Christ, c'est je suis, donc je fais. Amen. Et vous comprenez? La religion, c'est je fais, donc je deviens. Mais la foi en Christ, c'est je suis, non pas je serai. Je suis aujourd'hui, donc je fais. Amen. 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 C'est la différence entre l'évangile et la religion. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des religions dans le monde qui font plein de bonnes actions, mais leur cœur est mauvais. Mais si tu regardes juste leurs actions, tu dois dire, « Wow, c'est des hommes pieux, des femmes vraiment consacrées, mais leur cœur n'est pas transformé. » C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui, parce que les gens ont l'apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire, l'Évangile donne cette force à notre piété, à notre attachement à Dieu. Je suis d'abord, donc je fais. Amen. Je suis juste, donc je marche dans la justice. Je suis saint. Donc, je marche dans la sainteté. Amen. Amen. Je suis béni, donc je marche dans la bénédiction. Amen. Être béni, ça veut dire que Dieu a déclaré sur moi des bonnes choses. Donc, il n'y a aucune malédiction. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient aux malédictions parce qu'ils regardent leur vie, comment elle est toute désordonnée, puis ils disent, oh, sûrement que je suis maudit. Amen. Mais on ne marche pas par la vue. Amen. Donc, si Christ t'a béni, qui peut te maudire? Quelle malédiction peut être dans ta famille ou dans ton sang? On se souvient dans Jean 9, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Les disciples ont demandé, est-ce que c'est à cause de son péché ou ceux de ses parents qui est aveugle? Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, il va sûrement falloir faire un jeûne et prière. On va aller jeûner, on va aller chasser ce démon-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas important. C'est afin que les œuvres du Seigneur soient manifestées en lui. Donc, il n'a pas considéré ces choses-là. Et ça, il l'a dit avant la croix. Mais à la croix, Christ a été fait malédiction pour nous. Amen. Afin que nous reçussions la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Si Jésus-Christ pour toi est faible, ça veut dire que tu crois encore aux malédictions aujourd'hui, même s'il t'a déclaré béni. Amen. La croix, c'est une action irrévocable, inchangeable, irréversible, indestructible, intouchable. Amen. Définitive, conclusive. Il n'y a rien qui peut renverser la croix de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut renverser l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux renverser la croix, il faut que tu renverses son ascension aux cieux. Il faut que tu renverses sa résurrection. Il faut que tu renverses sa crucifixion. Il faut que tu renverses sa mort. Il faut que tu renverses son ensevelissement. Il faut que tu renverses ses 33 années et demie sur la terre. Il faut que tu renverses son incarnation. Amen. Est-ce que c'est possible pour toi de le faire? Est-ce que c'est possible par tes œuvres d'ajouter à ce qui a été fait? Non! Parce que ça a été fait avant même que tu y crois. Ça a été fait avant même que tes parents puissent t'enfanter dans ce monde. Amen! Amen! Amen. Donc, ça ne dépend pas de toi. C'est juste dire oui. Et quand tu dis oui à Jésus, tu embarques dans quelque chose de merveilleux. Tu embarques dans l'univers qu'on appelle « en lui ». Amen! Tu embarques dans l'univers de « en lui ». Je pensais que j'allais avoir plus d'excitation. C'est-tu parce qu'il fait froid? Je ne crie pas pour attirer votre attention, mais je crie parce que je suis excité par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, parce que c'est à chaque jour que je me réveille le matin, je dis merci Seigneur parce que je suis juste. Aujourd'hui, maintenant, j'étais hier juste, demain je serai juste. Indépendamment de mes actions, ça ne veut pas dire que je vais commencer à marcher dans des voies qui ne te correspondent pas, mais je sais que je suis juste, je suis conscient de ma justice et je marche dans la justice tous les jours de ma vie. Amen. Pour voir si tu es encore en proie à la religion, il va falloir que tu ailles ce soir devant ton miroir et dire à ton miroir, je suis la justice de Dieu. Puis regarde ta réaction. Regarde ta réaction. Puis ta réaction va déterminer si tu es encore religieux ou non. Pour moi, ça a pris au moins un an, je dirais. Je vais être honnête avec vous. Ça m'a pris un an pour comprendre que j'étais justifié. Mais ça m'a pris 8 ans de vie chrétienne pour comprendre que j'étais justifié. Mais de la journée où j'ai reçu la révélation de la justification jusqu'à la journée où ce que j'ai dit oui, je suis juste, ça m'a pris au moins un an. Donc, j'ai passé au moins 9 ans de ma vie chrétienne à ne pas comprendre que je suis justifié. J'ai perdu 9 ans de ma vie dans la religion. Et encore là, je ne veux pas dire que de jeûner, ce n'est pas bon. Je ne veux pas dire que de prier, ce n'est pas bon. Je ne veux pas dire que de donner, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais de faire ces choses-là pour obtenir les choses que Dieu nous a déjà données gratuitement en son Fils. Amen. Par notre nouvelle naissance, ce n'est pas de nos œuvres, mais c'est par notre nouvelle naissance. De faire ces choses-là pour obtenir, c'est là qu'on est religieux. C'est là qu'on marche dans les œuvres. Amen. Mais pendant toutes mes premières 9 ans, je pensais qu'il fallait que je jeûne 30, 40 jours. Il fallait que je donne tant d'argent. Il fallait que je prie tant d'heures. Il fallait que je lise ma Bible tant de fois par jour, tant de fois par semaine. Puis je vivais dans cette quotidiennement, je vivais dans ça. Puis, les bénédictions de Dieu venaient en compte-gouttes. Des petits comptes-gouttes. Pourquoi? Parce que Dieu me donne selon mes œuvres. Mais quand Dieu donne selon sa grâce, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, c'est au-delà. Amen. Parce que des fois, on a des bénédictions, mais c'est à cause de nos œuvres. Amen. Oui, il y a des récompenses dans la Bible. Mais il y a la grâce de Dieu qui est au-delà de ce qu'on peut faire pour Dieu. Ça veut dire qu'on doit se reposer dans cette vérité, et en se reposant, il y a le zèle de cette grâce qui vient en nous, dans laquelle Paul a dit, j'étais le dernier des apôtres, mais j'ai fait plus que les autres apôtres qui m'ont précédé. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Donc la grâce de Dieu ne nous rend pas paresseux, mais elle nous rend zélés. Amen. Donc, les gens, des fois, ont peur de la grâce. Oh, ben, la grâce, ça va rendre les chrétiens paresseux, ça va rendre les chrétiens... voué au péché. Non, 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 loin de là. Ça, c'est quand tu ne comprends pas c'est quoi la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne à fuir les convoitises mondaines et à marcher dans la justice, dans la piété, dans la sagesse, dans ce siècle présent. Amen. Amen. C'est ça la puissance de Dieu en nous. C'est ça la puissance de transformation en nous. C'est ça la vie de Christ en nous qui est notre vie. Donc, il y a un moi que j'appelle moi qui n'est pas moi. Allô? Il y a un moi que j'appelle moi qui n'est pas moi. Oh, moi, je suis le fils de Michel et Marie. Moi, mes parents ont toujours été pauvres. Moi, je suis toujours malade. J'ai toujours... Quand c'est le mois de novembre, mes poumons sont pleins d'eau. Moi, ça, c'est moi. Oh, moi, quand j'ai une déception, je passe 2 semaines à pleurer. Oh, ça, c'est moi. Oh, moi, mon grand-père, il m'a toujours dit que je ne ferais rien dans la vie. Fait que ça, c'est moi. Regarde ma vie. Je travaille chez Dolorama, puis c'est ça ma vie. Ça, c'est moi. Ben, il y a un moi que tu appelles moi qui n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est Christ en moi. Donc, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si je vis aujourd'hui, c'est par la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Si je la reçois en vain, ça veut dire que Christ est mort en vain. Amen. Donc, je ne rejette pas la grâce de Dieu parce que le moi que j'appelle moi n'est plus moi, mais c'est Christ en moi qui vit aujourd'hui. Alléluia! Yeah! Woo! Yes! J'ai envie de courir partout. Amen. Alléluia. La rédemption, racheter. On est racheté. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que celui qui vit selon la loi doit vivre complètement par tous les 613 commandements. À ta job, tu as peut-être juste 5 commandements, tu n'en fais même pas 3. Reviens dîner à 1 heure, tu reviens à 1h30. Aller aux toilettes 2 fois dans la journée, tu y vas 4 fois. Là, toi, tu veux suivre 613 commandements. T'es sérieux? Et celui qui veut vivre selon la loi doit marcher selon la loi. Mais celui qui ne marche pas selon la loi est maudit. Donc, tu peux avoir 9,5 sur 10, c'est toujours pas assez pour Dieu. Donc, Dieu a utilisé la loi. Il a enfermé tous, juifs et grecs, sous la désobéissance, afin de montrer la miséricorde à tous. Donc, c'est ça l'abus de la loi, c'est de nous faire regarder en haut. C'est-à-dire, on a besoin de toi, Dieu. On a besoin d'un sauveur. Sauve-nous de notre humanité pécheresse. C'était ça le but de la loi. Mais maintenant que Christ a accompli la loi, le mot accompli, c'est le même mot qu'on va te dire quand tu finis de payer ton auto. Amen. C'est fini. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu accepterais de payer une voiture que tu as fini de payer? L'auto m'a coûté 25 000 $. J'ai fini mes paiements. On m'a envoyé la lettre. Monsieur, si vous êtes propriétaire, madame, vous êtes propriétaire officiel de l'auto. Puis là, le mois d'après, il y a encore des paiements dans ton compte qui passent. Est-ce que tu accepterais ça? Est-ce que tu accepterais ça? La loi n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie. C'est-à-dire que Jésus l'a accomplie, il a fermé le livre. Maintenant, on rentre dans la grâce. La loi est là pour nous enseigner. On apprend de la loi, mais ça n'a pas été écrit pour nous. Maintenant, on vit selon ce que Paul écrit à l'Église. Les préceptes que Paul donne à l'Église. C'est ça nos enseignements aujourd'hui. Amen. Donc, on ne jette pas l'Ancien Testament dans la poubelle, mais on apprend de l'Ancien Testament. Mais ça n'a pas été écrit directement à nous. Aujourd'hui, c'est Paul qui nous enseigne. Amen. Et Paul nous dit, reposez-vous. Amen. Paul nous dit, travaillez à entrer dans son repos. Ben, c'est difficile, hein? Ben, je vous ai donné une image physique de paiement d'auto, vous acceptez pas, mais pourquoi vous acceptez que la loi continue après que Christ l'a accompli? Pourquoi les chrétiens acceptent de se mettre eux-mêmes sous la loi? Paul a écrit une lettre sévère aux chrétiens de Galatie, dans Galates chapitre 1 au chapitre 6. Amen. Si vous pensez que par la circoncision, vous allez être plus juste devant Dieu, détrompez-vous. Amen. Celui qui pense ça, il rejette la grâce de Dieu. Donc, tu ne peux pas mélanger les deux ensemble. Amen. Celui qui pense ça, il rejette la grâce de Dieu. Ça veut dire que, oui, je suis chrétien, mais je décide de vivre selon mes propres sources, selon ma propre sanctification, ma propre sainteté. Donc, moi, pour moi, la sainteté, c'est de mettre un foulard. Je ne sais pas je parle en tant qu'une femme, je vais mettre un foulard, je vais mettre une jupe longue, je vais mettre des habits qui me couvrent, je vais marcher avec la tête baissée, penchée, je vais parler doucement, tranquillement, pas trop fort. Pour moi, c'est ça la sainteté. Ça, c'est ma sainteté à moi. Amen. Ça, c'est ma sainteté à moi. Ce n'est pas la sainteté que Dieu donne. Et vous verrez que j'ai voyagé un petit peu dans ma jeune vie de prédicateur, mais j'ai vu beaucoup de styles d'église, beaucoup de styles de chrétiens. Et en fait, les gens se pensent dans la sainteté, mais ils sont dans la religion, malheureusement. Ils sont captifs de la religion. Ils ne comprennent pas encore quelle est leur liberté en Christ. La liberté en Christ ne veut pas dire que je fais ce que je veux, mais ça veut dire que je veux ce que Dieu veut. C'est ça la liberté. Et ce que Dieu veut, il le veut dans son amour. L'amour ne contraint pas, l'amour ne force pas. Amen. L'amour est généreux. Donc, ce que je veux, c'est je veux ce que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Oh, j'ai plein de notes, mais je ne suis pas né de mes notes. Parce que Kenneth Hagin a dit, j'aime bien ce qu'il a dit, quand tu prépares un message, remplis-toi de la parole, puis laisse le Saint-Esprit faire le reste. Fait que c'est ce que j'ai fait depuis que je sais que j'ai été invité. J'ai pensé à vous, j'ai pensé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi ce qu'ils ont besoin. Puis c'est tout. Donc j'ai plein de notes, mais c'est pas ça le problème. Amen. Donc il y a beaucoup de philosophies qui viennent attaquer la parole de Dieu. Depuis notre jeune âge, on est entraîné là-dedans. On est entraîné à. Il y a un mot qu'on appelle la méritocratie on doit. Est-ce que vous comprenez un petit peu? On doit mériter. Hein? À l'école, quand on fait des bonnes choses, on a une étoile. À la maison, quand on fait des corvées, on a des surprises. Et c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais. Au travail, on a des promotions quand on travaille bien. Donc, ce que je fais apporte des résultats et c'est vrai. Mais quand on arrive maintenant au message de la grâce de Dieu, puis on dit, tu n'as rien besoin de faire. Ah. Hein? Mais non, attends. Je pense que je n'ai pas bien compris. Ah ouais, Dieu, qu'est-ce que tu dis là? Je vais. Au cas où j'ai mal compris, je vais faire quelque chose quand même, tu sais. Puis dit, Dieu, il revient, puis il dit, non, t'as rien. C'est déjà fait. Puis nous, on continue, puis on ostine Dieu, et on dit, non, je fais non, Seigneur. Tu sais, je vais au moins prier tant d'heures, là. Tu sais, voyons. La bénédiction ne va pas venir juste comme ça, en faisant rien. Mais combien d'entre vous faites des enfants pour qu'ils vous obéissent? Ben, y a des gens honnêtes, c'est bon. Mais qui sait que quand vos enfants vont naître, ils vont vous désobéir? Combien d'entre vous le savez déjà? Est-ce que ça vous a empêché de faire des enfants? Est-ce que ça vous a empêché d'avoir un désir d'avoir des enfants? Ah, je veux des enfants, mais je sais déjà qu'ils vont me désobéir, fait que j'hésite. Là. J'hésite. Dès lors qu'un test de grossesse est positif, toute la famille se réjouit et toute la famille est dans l'attente de voir la petite crevette. Il y a cette joie, il y a cette attente, il y a ces projets qui naissent déjà, il y a ce rêve qui naît déjà, il y a cet amour qui naît déjà, il y a toute cette préparation. OK, il doit avoir la chambre comme ça. Puis il y a ça. Hey, où est-ce qu'il va aller à l'école? Ah oui, il va aller là, c'était à l'école. Hey, mais qu'est-ce qu'il va faire plus vieux? Oh, il va sûrement faire comme toi, comme ton grand-père, il a fait ça. Ben, il va faire, non, mais moi, je veux qu'il soit plus que moi. Puis là, il y a tellement de projets, de plans qui sont en train de se parler, puis l'enfant n'est même pas encore là, il est encore. Et on ne peut même pas le voir à l'échographie, mais il y a déjà des projets en cours de route. Ça, c'est Dieu qui pense à vous avant la fondation du monde. C'est Dieu qui pense à vous. Il dit, waouh, quand lui va naître, waouh, il y a tellement de projets, de plans. Il dit, oh, il est tellement beau, il est tellement, waouh, je l'aime tellement. Puis un enfant, savez-vous qu'un enfant n'a pas besoin de faire de corvée pour qu'on soit en extase, qu'on dise, waouh, il a roté, waouh, waouh, il a fait, waouh, waouh. Amen. Mais Dieu, il s'extase, il jubile quand il nous voit. Amen. Amen. Il jubile quand il nous voit. Amen. On a besoin de rien faire, puis il est déjà heureux. Il est déjà content. Nos vies lui plaisent. Oh. Hein? Il a-tu dit ce que j'ai entendu? Sa vie, ma vie lui plaît? Je sais que même si un enfant va en prison, le parent va pleurer dans son cœur s'il pouvait donner des millions pour sortir son enfant de prison. S'il pouvait aller en prison à sa place, il irait. De dire que Dieu ne pense pas ça de toi, c'est de dire que tu es meilleur parent que Dieu est père pour toi. Donc, toi, tu es prêt à aller en prison, mais non, Dieu ne m'aime pas autant que ça, voyons. C'est-à-dire que tu es meilleur père que Dieu, meilleure mère ou... Tu comprenais un peu? Si Jésus a dit aux Juifs, si méchants que vous, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Pourtant, vous n'êtes pas des bonnes personnes, vous, les Juifs. À combien de fortes raisons votre Père qui est dans les cieux? Amen. Amen. Changeons la façon dont on voit Dieu. Il est plus bon que ce que l'on dit. Mais là, ce n'est pas un Dieu bonbon. Dieu, il n'est pas seulement amour, mais il est juste. Est-ce que la justice et l'amour travaillent l'un contre l'autre? La colère de parents, est-ce que c'est pour détruire l'enfant ou pour le construire? OK. Ben, les deux ne travaillent pas l'un contre l'autre. Les deux, même la supposée punition ou la colère de Dieu, c'est dans son amour. Parce que la colère d'un parent, ce n'est pas pour détruire l'enfant. C'est pour l'amener dans une droite direction. Si tu es fâché contre ton enfant parce qu'il a traversé la rue sans regarder à gauche, à droite, c'est parce que tu l'aimes. Est-ce que j'ai raison? Pourquoi on verrait Dieu différemment? Il nous a créé à son image. Amen. C'est trop simple. Mais on s'invente un Dieu étrange là, dans nos têtes. Puis l'image finale, elle ne ressemble pas du tout au Dieu créateur. Ça ressemble pas du tout. Fait que c'est ce que nous, on décide d'accepter, en fait. Tu as le choix d'accepter cette image-là de Dieu, ou non. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. L'union est la participation avec Christ. Il y a l'image... On est fait à l'image et la ressemblance de Christ. Donc, l'image, c'est notre position et la ressemblance, c'est notre marche quotidienne. Donc, souvent, on va dire, lui, es-tu chrétien pour de vrai? Regarde comment il fait ci, il fait ça. Bon, on a tout fait ça, je pense. Soit envers quelqu'un ou envers nous-mêmes. Mais il y a l'image, c'est-à-dire que Dieu a fait de moi ce que Jésus-Christ est, mais pas qui est Jésus-Christ. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Jésus-Christ est juste, est saint, est pur, est sans tache. Il nous a amenés en lui. Okay? Mais nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Nous ne sommes pas ceux qui sont venus il y a 2000 ans. On n'est pas devenus Jésus-Christ, mais on est de la même nature que lui. Un chien donne un chien, un chat donne un chat. Dieu donne des petits-enfants de Dieu. Parce qu'on a la même nature. Il ne peut pas donner autre nature que ça. Amen. Mais la participation, c'est de comprendre maintenant qu'il vit en moi, que je vis en lui, et que mon action est son action, mes paroles sont ses paroles, ma marche est sa marche. Mais tout ça, ça se passe dans la conscience. Tout ça, ça se passe dans la conscience. C'est pour ça que la parole nous exhorte à renouveler notre intelligence. Sur quoi? Sur les vérités qui sont en Christ. Rien d'autre. Rien d'autre que ça. C'est de se dire, c'est d'énumérer toutes les réalités qui sont en Christ. Il y a au moins 160 fois qu'il est écrit en lui, par lui, au travers duquel, par lequel, avec qui, en qui. Une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Donc, tu peux énumérer toutes ces centaines de choses-là. Puis là, tu dis, ça c'est moi, 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 ça c'est moi. Amen. Le travail maintenant, c'est de le faire et de dire oui et amen. Parce que là, on va le voir, puis ouais, aujourd'hui, ouais, je me sens pas trop prospère en ce moment. Ouais, je me sens pas vraiment prospère en ce moment. Je dis wow, ok, ouais. Tu regardes ton compte, ouais, non, c'est pas ça. Jésus n'avait aucun compte en banque, mais partout où il allait, il y avait la provision. Il dit, il y a des poissons, là, check dans sa bouche, là, tu vas voir. Il y a de quoi pour payer les taxes. Puis il a payé. Amen. De lieu en lieu où il allait, il y avait des gens qui le supportaient. Donc, il n'avait pas vraiment de quoi dire que oh, j'ai plein de richesses, mais il ne manquait de rien. Partout où il allait, il pouvait accomplir le plan de Dieu pleinement. Amen. La prospérité, dans la définition biblique, c'est d'avoir tous tes besoins comblés et un superflu pour participer à toute bonne œuvre, aider son prochain. Amen. Donc, la prospérité, ce n'est pas un montant d'argent. Ça vient aussi du cœur. C'est une condition du cœur avant tout. Amen. Donc, c'est pas vraiment l'importance de le type d'emploi que tu fais ou le type de carrière que tu as. Parce que il y en a, comme les pharisiens, Jésus a dit, la vieille dame a donné plus que eux tous, ceux autres qui ont donné leur superflu, là, mais elle a donné son nécessaire. Donc, c'est pas tellement l'emploi que tu fais qui détermine si tu es prospère ou non, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là. Qu'est-ce que tu fais avec tes biens matériels qui va déterminer cette réelle prospérité en toi et aussi l'état de ton cœur. Amen. Est-ce qu'on prospère à la même dimension que prospère notre âme? Amen. Mais tu peux dire avec assurance, je suis prospère en Jésus-Christ. Mais les factures d'Hydro nous rappellent souvent que quand les taxes municipales, la facture de compte de taxes, ouais, voilà, c'est là que j'exerce ma foi, tu sais. C'est en toujours et en tout temps. Ces vérités sont inchangeables. Ces vérités sont inconditionnelles. Ces vérités sont constamment là. C'est notre conscience de ces vérités qui augmente. Mais c'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas que tu deviens plus juste. C'est que tu deviens plus conscient de ta justice. Jésus, quand il s'est donné, il s'est pas donné à 20%, puis là, après, à chaque année, il rajoute 1%. Ou il va selon le taux d'inflation. Là. Ouais, cette année, c'est 2%. Moi, je vais ajouter 2% de justice cette année. On va voir. Quand Jésus s'est donné, il s'est donné à 100%. Donc, tu es 100% juste, 100% saint, 100% prospère, 100% béni. Mais c'est ta prise de conscience de cette vérité qui augmente en toi et qui se manifeste progressivement. Amen. C'est ça qui change. Mais il y en a qui pensent que c'est plus que j'en fais, plus que je vais l'avoir ou plus que je vais le devenir. C'est le contraire encore, c'est la religion. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les passages, mais Éphésiens 2.5, Romains 6.3, 2 Corinthiens 5.21, 1 Corinthiens 1.30, toutes ces vérités-là de crucifié, mort, enseveli, ravivé, élevé, assis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ces passages-là, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué que dans tous ces mots que j'ai énumérés, crucifié, mort, enseveli, ravivé, élevé, assis, à côté est écrit avec lui, en lui. Amen. Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement mort pour moi, mais il est mort en tant que moi. Ça veut dire que étant pas né, j'étais déjà là. Parce que sinon Christ devrait retourner à la croix à chaque fois que quelqu'un venait de nouveau. Donc, il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas à le refaire 3 fois, 4 fois, 5 fois, ou à chaque 1000 ans. Bon, à chaque mois, je vais retourner à la croix, là. On est dans un autre millénaire, je vais retourner. Puis dans 100 ans, je vais retourner. Il l'a fait. C'est une rédemption. Le livre d'Hébreu nous dit une rédemption éternelle. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est ce qui est écrit. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage-là? Non? Oui, peut-être. C'est écrit. J'ai fait la recherche, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Vous le trouverez, le passage dans la Bible, il est écrit. C'est-à-dire que son plan, il perdure depuis avant même qu'on soit là. Dieu, quand il nous regarde, il voit le temps comme ça. Lui est à l'extérieur du temps parce que Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Mais nous, on est dans le temps. Donc, quand Dieu il regarde, il voit le début, le milieu, la fin en même temps. Donc, pour lui, Dieu, il ne parle pas le même langage que nous. C'est pourquoi, quand on devient chrétien, on doit commencer à saisir la manière dont Dieu voit les choses. Parce que Dieu ne marche pas selon un calendrier, selon un mois, selon un jour, mais il marche dans son éternité. Amen. Donc, quand on entre dans cette façon de penser, on n'est plus trop stressé comme on devrait l'être par le 9 à 5, par le métro-boulot-dodo, par le temps. « Oh, mon horloge biologique avance. Oh. » Oh, je vieillis. Ouais, mais Dieu, il ne voit pas le temps comme toi. Amen. Il ne voit pas le temps comme toi. S'il a appelé Moïse à 80 ans, c'est qu'il ne voit pas le temps comme toi. Amen. n'y a pas besoin d'un vase parfait, il y a juste besoin d'un vase disponible, disposé. Amen. Quand tu es déjà plein de toi-même, Dieu, il n'y a rien à faire avec toi. Mais quand tu dis oui, Seigneur, utilise-moi, il va. Peu importe l'âge, le sexe, la couleur, la grandeur, le pays, la nationalité, il va t'utiliser. Amen. Amen. Donc, crucifié en lui, mort avec lui, enseveli avec lui, ravivé avec lui, élevé, assis avec lui. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a. Mais pourquoi la Bible dit que je suis avec lui si je suis né, ça ne fait pas longtemps? Parce que c'est lui qui nous a inclus avec lui. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas voir l'œuvre de Jésus comme seulement pour nous, mais avec nous. Amen. Avec lui. Avec lui. Amen. Avec lui. Si avant qu'on se considérait pécheur, on était avec Adam, est-ce que vous êtes d'accord? C'est Adam, on était pécheur pas à cause de nos actions, mais à cause d'Adam qui a péché le premier. Ce péché qui a produit la mort s'est transmis à tous les hommes. Mais maintenant, Christ a agi aussi. Puis il s'est identifié à nous avant même qu'on puisse naître. Puis c'est en vertu de ça qu'on peut s'identifier à lui. Amen. Et c'est ça la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer. Comme j'ai dit tantôt, il faudrait qu'on défasse son ascension, son ravivement, son ensevelissement, sa crucifixion. Il faudrait qu'on défasse tout ça. C'est un peu compliqué, je trouve. Mieux vaut juste l'accepter. Amen. C'est plus facile. Amen. Mais non seulement le monde n'a pas compris, mais l'Église a de la difficulté à saisir. Comme j'ai dit, il y a les philosophies du monde qui attaquent l'Évangile. Il y a les pensées humaines qui attaquent l'Évangile à un niveau très, très, très élevé. De sorte que sans le savoir, on accepte dans notre pensée des concepts humains qui viennent mettre un frein à l'action de l'Évangile en nous. Amen. Et ça vient embrouiller notre perception. Donc, ce qu'on perçoit de Christ, c'est ce qui va influencer notre quotidien. Ce qu'on perçoit de Dieu, c'est ce qui va influencer notre quotidien. Mais on doit se le rappeler chaque jour. Puis, je ne dis pas ça parce que je suis déjà arrivé. Il y a chaque jour des choses qui viennent me rappeler. Comment je peux dire ça? De se voir en Christ, ça ne veut pas dire non plus de négliger les aspects naturels. Ça veut dire que si tu as une maladie, c'est pas un péché d'aller voir le médecin. Mais c'est un peu pas sage de dire « Non, je suis pas malade, je suis pas malade, non, je suis pas malade, non, 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 je suis pas malade, je suis pas malade. » Mais là, c'est parce que ton pied est là-bas, là. « Non, 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 je suis pas malade. » Je sais pas si vous comprenez. Amen. Mais c'est de dire « Je suis complet en Christ. J'ai rien de perdu, rien de brisé. Oui, j'ai des symptômes dans mon corps. J'ai mal. J'ai vraiment... La douleur est vraie, là. Non, j'ai pas mal. T'as vraiment mal, mais c'est la vérité, c'est Christ me rend complet, me rend entier. Christ m'a guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Pas je serai, pas je suis, j'ai été. C'est encore plus puissant. Amen. Oubliez la réforme du français, là, OK? Parce qu'ils veulent plus qu'on comprenne l'Évangile, je pense. C'est ça le but. J'ai été, OK? Pas assez. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, c'est plus puissant que je suis guéri, c'est j'ai été. Ça veut dire que la guérison est arrivée avant la maladie. Amen. Amen. La guérison est arrivée avant la maladie. Ta prospérité est arrivée avant ta pauvreté. Amen. Amen. Tout ce que l'ennemi fait, il le fait en retard. Amen. Il y a quelqu'un qui est passé avant. Il le fait en retard. Tout ce que l'ennemi peut te faire croire, c'est que ce que Christ a fait n'a pas eu d'effet. Te faire douter que tu es vraiment fils de Dieu. Es-tu réellement fils de Dieu? Toutes les épreuves de ta vie viennent pour te faire douter que tu es vraiment fils de Dieu. Ah ouais, si tu es vraiment prospère, pourquoi tu es au bord de la faillite? Si tu es vraiment guéri, pourquoi est-ce que tu es au stade 4 de ton cancer? Si tu es vraiment justifié, pourquoi est-ce que tu es rendu à ton troisième mariage? Oh! Ouh! Est-ce qu'il fallait que je dise ça? Mais l'ennemi va le dire, lui. Ça va rentrer. Puis si on l'accepte, ben, ça va nous influencer. Automatiquement. Mais en dépit de ce qu'on voit, la vérité reste la vérité. Et c'est ça le combat de la foi. Amen. C'est ça le combat de la foi, c'est de saisir ces vérités-là, puis de marcher avec, d'être un peu têtu pour Jésus. Il faut être têtu, mais pour Jésus. C'est bon d'être têtu, mais pour Jésus, OK? C'est pas bon d'être têtu dans le couple, OK? Mais être têtu pour Jésus, c'est-à-dire que j'y crois, même si je le vois pas, j'y crois. Puis même si j'ai des résultats qui me déçoivent, ça va jamais changer la vérité. Amen! Ça va jamais changer la vérité. Paul a dit que nous sommes considérés comme pauvres, mais pourtant nous enrichissons plusieurs. C'est-à-dire que les gens, ils les voyaient comme des hommes simples, pauvres, mais eux, en eux, ils savent qui ils sont. Ils disent non, nous, on enrichit plein de gens, on enrichit les églises. Spirituellement, financièrement, on les enrichit parce que la bonne nouvelle amène cette prospérité d'âme et cette prospérité de finances, de matériel. Pas pour soi, mais pour propager encore ce message ailleurs. Amen. Mais oui, on va en bénéficier aussi. Mais ça va toujours déborder parce que Dieu est généreux. Amen. Donc, tu peux vivre des situations aujourd'hui. Des fois, il y a des gens qui vivent des échecs, des décès, des pertes, vraiment, tu avais un projet, tu sais que c'est Dieu qui t'avait amené le projet, puis pour une raison, ça a juste fini comme ça. Tu avais un mariage qui était sain, qui était beau, puis d'un jour à l'autre, ça s'est fini. Puis là, ça t'a amené à douter. Ou entrer dans cette attitude d'indifférence. D'entrer dans une attitude d'indifférence dans laquelle, ouais, tout ce que tu dis ce matin, c'est bien beau, là, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai cru à ça, puis j'ai prié, puis c'est pas arrivé. Fait que tu peux beau prêcher ton truc, puis crier, puis être excité, là, mais moi, c'est ça que j'ai vécu. Le Seigneur, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est maître de ta vie. Et le commencement et la fin. Il n'est pas l'auteur du malheur. Il n'est pas insensible à nos cris. Et ce n'est pas par manque de foi que tu as vécu ces choses-là. Il faut arrêter de se condamner, de dire on n'a pas eu assez de foi. Mais j'étais convaincu que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'était la volonté de Dieu. C'est juste pas arrivé. Mais c'était-tu le diable, les hommes? C'est pas important de savoir ça. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas important. Pourquoi, si j'ai cru, pourquoi c'est arrivé? C'est pas important. Ça veut pas dire que c'est pas difficile. C'est difficile à vivre. Des fois, on reste avec la blessure, le sentiment de l'avoir perdu quelque chose, puis on reste avec ce sentiment-là en nous. Puis on vient à l'église tous les dimanches, on est là, puis alléluia, amen, ouais. On connaît tous les dictionnaires chrétiens des mots alléluia, amen, sois béni, sois rencontré dans tes besoins, amen, au nom de Jésus, amen, bon dimanche. Puis on recommence encore on enlève notre masque, arrive à la maison, puis on est vraiment triste. Mais on a peur de le dire aux autres parce qu'on va passer pour quelqu'un qui n'a pas assez de foi. Ce monde-là, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup d'adversité. Tout le temps, chaque étape de ta vie, il y a des choses qui viendront contre toi. Mais notre foi, c'est ça qui a triomphé du monde. Amen. Notre foi a triomphé du monde. Ah, j'ai cru pour ma mère ou mon père soit guéri, puis oh. J'ai cru pour mon fils, ma fille de retourner chez nous. Oh. J'ai cru pour ci, j'ai cru pour ça. Oh. Ces circonstances ne peuvent pas annuler la vérité. Mais comment rejoindre les deux? On appelle souvent ça le paradoxe de l'Évangile. C'est-à-dire que oui, on a tout en Christ maintenant. Mais des fois, on ne le voit pas maintenant qu'on a tout en Christ. Amen. Mais Dieu n'est pas stressé par ce dilemme. C'est nous. Pourquoi? Parce qu'on on voit le temps comme ça. Mais lui, il voit le temps comme ça. Il regarde comme ça. Mais nous, on voit nos vies dans des épisodes, dans des chapitres. Lui, Dieu, il a déjà fini d'écrire le livre, puis c'est déjà un best-seller. Mais nous, on voit chapitre par chapitre par chapitre. Puis là, on revient au chapitre 1, hey, c'est passé ça. Là, on va au chapitre 6, on voit que le chapitre 1 est pareil, puis on se dit, ben finalement, Dieu, es-tu dans ma vie? Amen. J'aimerais qu'on ferme les yeux. Christ est glorieux. Christ est non seulement le centre de nos vies, mais il est suprême. C'est-à-dire que c'est lui qui est au-dessus de tout. Christ est notre vie. En fait, il vit en nous, pas comme un locataire, mais il veut simplement qu'on participe à sa vie. Qu'on aime comme il aime, qu'on soit joyeux comme il est joyeux. Personnellement, je suis sûr que Jésus danse tout le temps, tous les jours. Je suis persuadé qu'il est tout le temps en train de rire. Et je veux parler particulièrement parce que, en priant, en venant ici, le Seigneur m'a dit que je devais déposer de la joie à certaines personnes. Certaines personnes qui ont été déçues, qui ont été découragées, qui ont été peut-être désillusionnées par les circonstances de la vie qui les ont amenées à douter ou à être indifférents à la parole de Dieu ou aux choses de Dieu. Ils viennent à l'église par routine, mais ils sont plus dedans. Ils n'ont plus le cœur dedans. Ils sont même proches de lâcher, de dire, « Ah, ben là, cette affaire de Bible, là, moi... » Mais si je suis venu ce matin pour vous, c'est simplement pour confirmer le message de la grâce de Dieu en vous. Je suis venu pour vous fortifier dans la parole, à rester attaché à la promesse, à rester attaché à la promesse qui est Jésus-Christ, à rester centré sur son message, sur son œuvre, sur sa personne, à rester centré sur le fait que ce qu'il est, je suis. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Celui qui est uni à Christ est avec lui un seul et même esprit. Il est ma vie. Je prie que chacun d'entre nous vienne à cette réalisation. Et j'aimerais appeler devant pour peut-être une courte prière. J'aimerais appeler devant des personnes, c'est peut-être pas beaucoup de personnes, mais des personnes qui ont besoin de joie. Que ça fait peut-être des semaines, des mois, peut-être des années que tu n'es pas réellement joyeux dans ta vie. Que oui, tu souris, mais en réalité, tu n'es pas joyeux. Il y a une différence entre être content parce que tu as eu ta paie jeudi puis être heureux en dépit des circonstances. C'est cette joie-là que Dieu veut te donner. C'est cette joie-là qui est indifférente des circonstances qui viennent contre toi. C'est cette joie-là qui rend témoignage aux autres au travail qui dit, mais malgré tout ce qu'elle vit ou tout ce qu'il vit, il est toujours content, il est toujours joyeux. Wow! Et c'est cette joie-là que je veux déposer dans ton cœur ce matin. Donc, si tu peux venir maintenant à l'avant, si c'est toi, c'est peut-être 1, 2, 3 personnes, je veux que tu viennes tout de suite.